France Culture. France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourbon.
Tesla, Oracle, SpaceX, les géants de la tech quittent la Californie pour le Texas. Cette migration géographique cache une mutation idéologique profonde. L'utopie numérique des années 90, Internet comme outil de démocratisation, s'est transformée en techno-théocratie conservatrice, alliance du big business, du fondamentalisme chrétien et de l'extractivisme numérique. Fred Turner, l'historien des médias, professeur à Stanford, nous aide à comprendre comment nous sommes passés de l'idéologie californienne à l'idéologie texane et pourquoi les technologies conçues pour libérer servent aujourd'hui à contrôler. Il est cette semaine l'invité exceptionnel de la suite dans les idées. Fred Turner, bonjour.
Ah. Bonjour Sylvain.
Heureux de vous retrouver ici. Vous étiez déjà venu parler de livres très très importants. Un premier qui nous avait aidé à comprendre les origines culturelles et contre-culturel du web, et puis un qui permettait de comprendre ce qui s'était passé avant, ce qui, depuis les années 30 et la lutte culturelle contre le fascisme, avait produit cette culture multimédia qui était à l'origine même du web. C'est une longue histoire à travers un siècle pratiquement de relations entre culture, technologie et politique dont vous êtes aujourd'hui l'auteur, et vous poursuivez le travail en vous attachant cette fois à l'actualité la plus aiguë. Cette actualité, c'est celle du déménagement d'un certain nombre de géants de l'informatique ou des nouvelles technologies plus largement depuis la Californie, dont vous êtes vous-même un des résidents depuis longtemps et un observateur, vers le Texas. Alors comment comprendre ce mouvement, ce départ, quelle est sa dimension très politique en fait, Fred Turner?
On traverse un changement sur la manière dont les médias et la technologie fonctionnent et la manière dont ils font de l'argent. Dans les années 90, la Silicon Valley avait pour objectif de construire des réseaux, de la technologie. Et l'idéologie, c'était la contre-culture. Les années 30, les années 40, c'était un rêve de démocratie et de technologie qui soutenait la démocratie. On a construit Internet en pensant à créer des conversations, créer les réseaux sociaux. Et au début des années 90, 2000 et 2010, plus rapidement, ce sont devenues des technologies extractives qui transforment le monde social en sorte de minerai, et il fallait de nouvelles technologies, il fallait des fermes de serveurs, il fallait de la surveillance à grande échelle, énormément d'électricité, énormément d'eau, et surtout il fallait un environnement déréglementé, et pour ça le Texas est le lieu idéal. Donc ces entreprises vont au Texas pour des ressources naturelles et pour gagner un environnement politique où en fait elles sont complètement déréglementées, ces entreprises, et c'est ça qui fait qu'elles peuvent faire énormément de bénéfices dans cette nouvelle ère de l'extractivisme du monde numérique.
Alors, elles auraient pu déménager ailleurs. Les États-Unis d'Amérique sont vastes. On sait que l'Alaska héberge des serveurs aussi pour des raisons climatiques. Mais si ces entreprises ont choisi d'aller au Texas, ce n'est pas tout à fait par hasard. Et ça s'inscrit très très bien. Vous le montrez dans un livre qui paraît en français, Politique des machines, aux éditions CF, comme vos livres précédents. Vous le montrez. Cela s'inscrit dans une histoire de l'économie, une histoire des techniques qui est aussi une histoire politique et qui est celle de l'État du Texas.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le Texas, c'est un État qui s'appuie sur l'extractivisme. Avant, le Texas appartenait d'abord au Mexique, puis aux États-Unis. Il y avait deux grandes industries. La première, c'était l'élevage. Et ça, on le sait, on l'a vu dans les films de cow-boys. Et l'autre, c'était l'élevage du coton. Et à l'est du Texas, les esclaves étaient amenés du nord du pays pour sortir le coton des terres. Et puis au début du XXe siècle, et surtout du XXe siècle et surtout dans les années 30, il y a eu vraiment un boom de l'extraction du pétrole. Et toute l'idée du Texas, c'était vraiment de sortir le pétrole du sol et sortir du sol toute cette valeur. C'est un lieu d'extractivisme, mais c'est aussi un lieu extrêmement religieux. Et tout cela est très lié. L'idée, c'est que Dieu nous regarde et récompense les gens qui sont spéciaux. Et donc, si on extrait correctement le pétrole, alors on utilise les ressources de Dieu pour produire le monde que Dieu attend de nous en théorie. Donc, l'extractivisme et la religion sont très liés. Voilà pourquoi elle récompense aussi les leaders de la tech qui vont aussi bon, dans d'autres États, hein, en Virginie notamment, mais le Texas est très attractif. L'idéologie, l'extractivisme rendent ces ressources accessibles.
C'est ça qui vous permet de proposer cette notion d'idéologie texane. C'est pas juste une histoire économique qui a partie liée évidemment avec celle des États-Unis, avec ses spécificités. C'est aussi le lieu très important de naissance ou de renaissance d'une droite américaine depuis les années 1960. Il y a là des idéologues extrêmement importants qui sont à l'origine, au fond, de la victoire du président Trump par deux fois à la présidence des États-Unis.
Exactement. Et le côté pétrole et le côté chrétien sont très liés à la droite et à la culture de la droite aux États-Unis. Ceux et celles qui dirigent le Texas aujourd'hui sont les ancêtres, sont ceux qui ont amené Lyndon Johnson pendant la guerre du Vietnam, le père George Bush, le fils George Bush, d'autres figures moins connues, moins importantes, et aujourd'hui ce sont eux qui mènent les idées jusqu'à l'administration Trump. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les nouvelles décisions régionales qui ont été prises. Le Texas, en tant que région, est devenu une région qui domine au même titre que la Californie le faisait dans les années 60. Moi, je trouve ça passionnant.
De la même façon, vous forgez cette expression « idéologie texane » pour mieux la faire contraster avec l'expression d'idéologie californienne. Le livre dont je parlais, qui paraît ces jours-ci aux éditions CEF, regroupe des articles que vous avez écrits, qui vont paraître pour certains en anglais. C'est un peu une première, cette édition française. Mais reprend aussi un texte classique de Richard Barbrook et Andy Cameron qui s'appelle « L'idéologie californienne », qui est un texte que vous avez décidé avec votre éditeur de reprendre pour ce volume parce qu'il permet au fond de comprendre ce qu'est cette idéologie californienne, ce que par ailleurs dans vos travaux, vous-même, vous avez eu l'occasion de montrer. En quoi consiste-t-elle ?
Merci pour cette question. Alors, l'idée, c'est que c'était un essai qui a été publié en 1995 par Brooke, qui est un analyste, et Cameron. Et eux, au milieu des années 90, ont été très surpris par la fusion de cette idée contre-culturelle utopique de nouvelles manières de faire de l'argent et des nouvelles technologies. Dans les années 60, on pensait que la contre-culture et la technologie étaient deux choses opposées, et tout d'un coup, elles se sont fusionnées. Et donc, cette référence, cette idéologie, californienne, c'était l'idée d'être connecté comme dans la contre-culture dans les années 60, mais de le faire par une technologie construite par des complexes industriels et sur un marché du travail. Donc, contre-culture qui se mélange à cette technologie, ce qui est extrêmement bizarre. Et eux, dans cet article, le décrivent très bien, en beaucoup de détails. Moi, dans Politique des machines, je me suis rendu compte que c'était vraiment un mélange parfait pour la période des réseaux. C'est-à-dire que à l'époque, c'était utiliser les technologies, les construire, mais c'était parfait. Mais aujourd'hui, avec l'IA, avec les réseaux sociaux, ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Ce sont des technologies extractives pour lesquelles il faut repenser les choses, et le Texas, c'est parfait pour ça.
Alors, cette idéologie californienne, j'aimerais qu'on s'y attarde un instant, parce que vous avez montré il y a longtemps maintenant les origines contre-culturelles de cette idéologie, mais pour autant, il semble qu'un certain nombre de gens n'aient pas véritablement saisi ce qui s'est passé par la suite, c'est-à-dire la manière dont ces utopies communalistes, ces utopies hippies, au fond, se sont trouvées totalement dévoyé, non pas nécessairement par les gens qui ont inventé les premiers outils, mais bien plutôt par ceux qui ont utilisé ces outils pour construire une nouvelle économie, Fred Turner.
Oui, je pense qu'à l'origine, on avait un rêve. On se disait que les années 60 allaient nous libérer de la politique, nous libérer de toutes les difficultés du quotidien. Et moi, quand j'ai écrit mon livre de l'hydroculture à la cyberculture, beaucoup nous disaient comment les hippies nous avaient libérés, avaient créé une technologie libératrice. Moi, ce n'est pas du tout ce que je ressentais. Bien au contraire. Pour moi, les hippies étaient inscrits justement dans la vie des technocrates, des technologies des années 40. Et la vision qu'il nous donnait du monde social était une vision d'un monde connecté par la technologie, par une conscience où on essayait de se libérer de la politique, alors que sur le terrain, les communalistes, les communautés qui étaient créées, étaient pleines de préjugés, étaient parfois racistes, parfois anti-homosexuels, très conservatrices en fait, les miroirs de ces vies de banlieues riches où vivaient ces gens. Et quand on se débarrasse de la bureaucratie, quand on se débarrasse des règles, on essaie avec la technologie et la conscience de vivre, eh bien, avec la technologie, on se retrouve avec des hommes autoritaristes qui essayent de contrôler. Quand on fait la même chose après avec tout un État, comme l'on a vu depuis les années 2000 et encore plus très récemment, on a des hommes autoritaristes qui se retrouvent au pouvoir. Et on n'a pas une Californie qui était un lieu de liberté qu'on a perdu d'un coup. C'était déjà un lieu qui était en fait aux racines du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui.
Peut-être pour mieux le comprendre, il faut revenir aussi sur la manière dont la politique a été conçue, la manière dont la définition de la politique a changé pour ces générations hippies. C'est-à-dire que le fait de dire que tout était politique pouvait conduire d'une certaine façon à considérer que rien ne l'était, ou en tous les cas que la politique stricto sensu n'avait plus beaucoup d'intérêt. Cela a eu des conséquences assez dramatiques au fond, Fred Turner.
Oui, se détourner de la politique, c'est très important. Moi, ce qu'on m'a enseigné, c'est qu'il n'y avait qu'une seule contre-culture qui se battait contre la guerre au Vietnam et qui était très libre et qui voulait faire la fête et qui était très heureuse. Et quand j'ai commencé à l'étudier, je me suis rendu compte qu'il y avait deux contre-cultures avec deux visions politiques. La nouvelle gauche, qui croyait dans les institutions, les partis politiques, les campagnes, mais les communalistes, eux, croyaient dans la conscience, danser, chanter, être ensemble et oublier la politique. Parce que d'après eux, la politique institutionnelle, les gouvernements, l'État, c'est ce qui nous avait amené à la guerre du Vietnam et c'est tout ce qu'ils ne voulaient pas être. Le paradoxe, c'est qu'en luttant contre la guerre au Vietnam, ils ont perdu aussi leur foi dans les institutions dont dépend la démocratie. Ils ont commencé à rêver d'un monde où il suffisait de se parler avec nos consciences, avec nos machines, et qu'on serait libre de tout ce que l'État nous impose. Et ça, c'est un fantasme qui existe encore dans la Silicon Valley, et c'est une énorme erreur.
Alors, on a compris un peu quelles étaient les grandes lignes de ces idéologies, à la fois l'idéologie californienne dont vous venez de parler, son inscription dans la contre-culture des années 60, le fait qu'elle soit finalement très hétérogène au-delà de l'impression qu'on peut avoir. Et puis, l'idéologie texane, sans doute plus ancienne, qui a son histoire propre. La question maintenant, et le mystère, c'est comment, à un moment donné, les deux trouvent à se rencontrer ou s'articuler. Et cela se traduit par le déménagement dont nous parlions d'entreprise au début. Comment une partie de ce qui émane de la culture ou de l'idéologie californienne va trouver à se marier, à s'hybrider au fond avec une partie de l'idéologie texane, Fred Turner?
Eh bien, on peut raconter la manière dont l'idéologie contre-culturelle devient l'idéologie texane grâce à des entreprises et l'essor d'entreprises comme Facebook et Meta. De l'extérieur, paraissent comme des réseaux sociaux ouverts à tous et à toutes, avec des entreprises qui sont cotées en bourse, mais en fait, à l'intérieur, c'est Mark Zuckerberg qui dirige le tout. Il a tout, il a toutes les actions, c'est lui qui mène, c'est lui qui a tout le contrôle, il est le roi de Meta. Donc l'idée que les PDG doivent être les rois est en fait ce qui règne sur la Silicon Valley. Fin des années 90, début des années 2000, ces entreprises étaient créées et leurs dirigeants nous disaient le seul moyen de réussir, c'est d'être un roi et de régner. Et ça s'est continué dans les années 2010 et les gens se sont dit, ah tiens, moi la manière dont je dirige fonctionne parfaitement bien, je me fais des millions, le pays va très mal. Ah, bah donc le pays devrait être dirigé comme moi je dirige mon entreprise, mais il nous faut des dirigeants très forts. Et donc, on a des gens comme Curtis Yarvin qui deviennent les rois de la start-up, des gens qui dirigent le pays comme ils dirigent une entreprise. Et donc, l'entreprise devient le lieu où le rêve extraordinaire initial des réseaux sociaux devient en réalité l'autorité. Et en fait, Trump arrive au pouvoir et la droite américaine arrive au pouvoir et c'est là qu'ils arrivent à collaborer en partie parce qu'ils ont la même foi dans cet autoritarisme.
Alors comment vous expliquez la fascination de certains, on en voit beaucoup en France, pour ces penseurs, vous citiez le nom de Yarvin, on peut citer celui de Peter Thiel. Ces gens exercent une étrange fascination sur les commentateurs qui se trouvent souvent incapables de les qualifier de ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire des penseurs d'une droite radicale, profondément extrémiste.
Effectivement, ils sont de droite, je dirais même qu'ils sont néo-fascistes. Vous et moi, on était là en 2016 à cette émission, et je vous avais dit que Donald Trump, à l'époque, était un fasciste américain, et on me disait que c'était une exagération. Mais je pense que là, on a la preuve que ça ne l'était pas. Je pense que ce sont des personnes qui fascinent pour deux raisons. D'abord, ils sont extrêmement riches. Ils ont un niveau de contrôle du monde qui est extraordinaire, qui nous fascine. Peter Thiel a plus d'argent que Dieu. Et Elon Musk a plus d'argent que lui. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en fait, ça revient à ce que disait Freud. Ils offrent une sorte de plaisir pervers. Donald Trump, Elon Musk se délectent d'une politique de cruauté. Donc il y a ceux qui sont à l'intérieur et ceux qui sont à l'extérieur. Si vous entrez dans ce culte, eh bien, vous chiez un peu sur les autres. C'est comme ça, c'est terrible.
On va revenir avec vous, Fred Turner, sur ces figures et sur le confusionnisme qu'ils génèrent, dont ils profitent et qui est entretenu par un certain nombre de commentateurs également. Mais c'est après un extrait d'un album d'un groupe nommé Snowcap, Heathcliff. Call me the long-haired cat in your window. Wait for you to get back. I don't miss you. I don't think about us. I'm running through traffic, nailing up the pennant. I'm working your name into every other sentence. When you go down, you take me down with you. When you go down, you take me down with you. When you go down, you take me down with you. I'll be crash head on, send you straight to hell. I don't think about us. It might be something, but we keep it inconspicuous. Laid out on the highway, I look the other way. Every time you walk in, ignoring everything you say. When you go down, you take me down with you. When you go down, you take me.
Culture. La suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
On continue à parler de ce monde des technologies, de la politique des machines. C'est le titre du livre de Fred Turner qui paraît aux éditions CF, un livre qui nous permet de comprendre la manière dont l'idéologie californienne, celle qu'on associe à la Silicon Valley, à l'Internet, au web, a rencontré l'idéologie texane, l'idéologie de l'extractivisme du pétrole américain, le Texas, où donc débarquent des grandes entreprises de Californie. C'est le point de départ de cette réflexion. réflexion. Mais avec vous, Fred Turner, donc historien, professeur à Stanford, j'aimerais que l'on revienne sur aussi vos travaux précédents qui nous permettent de comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Je pense souvent, en effet, à vos livres, et en particulier un livre qui reparaît sous un nouveau titre en France, Design d'une démocratie, un livre très très important qui permet de comprendre d'où vient Internet, ses racines préhistoriques en quelque sorte, mais aussi d'où vient notre rapport compliqué aux médias. J'y pense pour la raison suivante, c'est-à-dire que souvent je me dis que nous sommes dans une époque confusionniste, une époque dans laquelle il devient de plus en plus compliqué de savoir, de cartographier qui pense quoi, pourquoi, une époque dans laquelle un certain nombre de gens trouvent un intérêt à publier des choses vraies à côté de choses fausses dont ils savent qu'elles sont fausses, mais une époque qui en tous les cas nous a éloignés de la propagande tout simplement. Et vous, le premier dans ce livre, vous avez montré comment déjà la culture américaine avait fait un pas de côté par rapport à la propagande, comment face à la propagande des nazis ou du fascisme dans les années 30, les Américains, grâce à des intellectuels, grâce à des artistes, avaient mis en place une stratégie de culture démocratique, de culture circulaire, disiez-vous, une culture qui permet des expériences immersives qui sont autrement plus élaborées, au fond, que la propagande. C'était une manière pour les États-Unis de réagir à cette idée du message simple, asséné par un émetteur unique, montrer que le pluralisme américain, c'était ce democratic surround dont vous parlez dans votre livre. Mais au fond, j'ai le sentiment depuis quelque temps que on est passé un cran après ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre d'États ou d'acteurs politiques ne font plus simplement des expériences immersives qu'on a pu appeler du soft power, mais aujourd'hui, ils cherchent tout simplement à brouiller les cartes. Ils cherchent à produire de la confusion. Et c'est cette confusion qui a remplacé désormais non seulement la propagande, mais aussi ce qu'on appelait autrefois le soft power.
Ah. I
suis tellement d'accord et j'apprécie vraiment que vous posiez cette question de cette manière-là. La culture de la confusion, c'est une tactique qui est utilisée par la droite. Steve Bannon a utilisé cette expression en disant « inonder la zone », utiliser les réseaux sociaux en disant « on ne peut plus faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux ». Jennifer Pan, une de mes collègues, a montré comment en Chine, le gouvernement chinois fait quelque chose de similaire, inonder les réseaux sociaux avec des messages pro Parti communiste, ça c'est une vraie stratégie. Ce qui est triste, c'est que c'est une permutation. On est passé du rêve des années 40, des années 50. À l'époque, on se disait qu'on trouverait un moyen de communiquer les uns avec les autres, trouver un média qu'on pourrait utiliser et qui nous permettrait de nous défaire de l'autoritarisme, de communiquer d'égal à égal. Tout le monde aurait voix au chapitre, tout le monde pourrait écouter tout le monde, le monde serait un immense système d'information et de ce fait, on serait tous et toutes égaux et libres. Et à l'époque, c'était très naïf, évidemment, mais on comprend d'où ça provient. Les Américains se demandaient, se sont renseignés, essayaient de comprendre d'où venait Hitler, et ils se sont dit, c'est forcément la radio, c'est forcément le cinéma, les médias, de toute façon, les journalistes, qui ont amené un leader, un dictateur, qui a réussi à être puissant parce qu'il envoyait le même message à tout le monde au même moment. Donc si nous, on construit des réseaux de médias où chacun est indépendant, chacun est libre, et qu'on s'entoure les uns des autres de nos informations, eh bien on se disait qu'à l'époque, l'ordre allait émerger de tout cela. Et c'est une idée qui d'ailleurs est toujours d'actualité dans la Silicon Valley, mais vous l'avez dit à juste titre, c'est une idée qui finalement est au service de ceux qui organisent l'information. Le fantasme, c'était de se dire que le monde serait complètement un monde d'information contrôlé par personne. Mais en fait, dès qu'on construit un système d'information, on construit une entreprise ou un État qui dirige cette information, qui fait circuler les ressources, on ne peut pas s'empêcher de faire de la politique. La politique est partout, même si on rêve d'un monde sans politique. Un monde où chacun aurait voix au chapitre, où chacun pourrait écouter, c'est un monde où tout le monde parle et où personne n'écoute. Et ça devient un fouillis qui est le fouillis dans lequel nous vivons aujourd'hui.
Cette idéologie, une partie de cette idéologie californienne qui célèbre par exemple l'amateur, l'horizontalité, le fait qu'il n'y ait plus véritablement d'institution, elle a été très très forte dans les années 1990, mais elle continue aujourd'hui. Il est frappant de voir à quel point des gens ont du mal à se défaire de cette utopie et qui est devenue pourtant très largement une dystopie.
It's so hard to let go of a dream.
C'est difficile de se défaire d'un rêve. Dans les années 90, les politiques, les universitaires, les technologues aussi pensaient que on était enfin arrivé à un moment où on allait se libérer du chaos qui avait été le fléau du siècle et du siècle précédent. Ça ne m'étonne pas que les gens continuent à s'accrocher à ce rêve, parce que c'est un très beau rêve. Et c'est un rêve aussi que ceux de la Silicon Valley essayent de nous vendre, essayent de nous transmettre en nous disant, on communique de plus en plus, ah ben maintenant il faut utiliser l'intelligence artificielle parce que c'est une technologie qui est une véritable déesse et qui nous permet de viser la Lune. Et tout ça, ça s'inscrit dans ce rêve et c'est difficile de ne plus s'accrocher à ce rêve-là. C'est très difficile, c'est particulièrement difficile de se rendre compte que, en fait, au cœur de ce rêve, il y a toujours eu un cauchemar. D'abord à cause de nos leaders technologiques qui nous ont vendu la technologie de l'autoritarisme comme si eux-mêmes étaient en train de se libérer, et puis par nous-mêmes aussi. Nous-mêmes, nous avons cru dans ce rêve alors qu'on aurait pu, qu'on aurait dû savoir. On fournissait les informations. C'est nous qui avons donné nos données. C'est nous qui avons nourri le monstre. Et maintenant, le monstre voudrait continuer à se nourrir de nous. Et c'est difficile de se souvenir que c'est un monstre et c'est pas juste le petit chien de la famille.
Vous diriez, Fred Turner, que cette idéologie a contribué à affaiblir, si ce n'est à faire disparaître un certain nombre d'institutions. Institutions entendues au sens large, ce n'est pas simplement les institutions politiques, ce sont les institutions scientifiques qui ont été fragilisées, ce sont sans doute au premier chef les institutions médiatiques dont les modèles économiques ont été ruinés en fait. Est-ce que vous pensez que dans le même temps sont apparues relativement invisible pour le grand public, de nouvelles institutions, des institutions entre les mains de ces grands patrons de la Silicon Valley, des institutions qui sont construites sur les logiques algorithmiques des modèles économiques de leurs entreprises, en fait.
I think so, but not quite the way that you laid it out.
Mais pas exactement de la manière dont vous présentez les choses. C'est-à-dire, les idéologies des années 60 ont effectivement remis en question les institutions. Mais ceux et celles qui les promouvaient étaient des gens qui étaient des universitaires, des érudits, des gens de la classe moyenne. Ils étaient des jeunes, ils étaient ravis finalement de retrouver du travail dans un monde institutionnel. Et vous, ce que vous décrivez, c'est plutôt un processus dans lequel la droite a essayé d'utiliser les institutions, de s'en défaire et de créer leur propre réseau. Et en créant ces réseaux politiques, ils ont commencé à prendre le pouvoir au Congrès, à prendre le pouvoir dans le monde des entreprises et dans les religions. Entre les nouveaux États, les nouvelles religions, ils ont pris le pouvoir dans les années 2000-2010. La droite a créé une société alternative extrêmement puissante. Et pendant ce temps-là, la gauche s'accrochait à une sorte de fantasme d'un monde de conscience, s'accrochait à l'idée que tout ce qu'il fallait faire, c'était aller dans la rue et dire nous on est les 99% et que ça allait changer le monde. Quelle naïveté! Nous on était dans les rues et pendant ce temps c'est la droite qui gagnait le congrès. On a un mouvement où à gauche on a trop cru dans la politique de la conscience et trop peu confiance dans les institutions et on ne s'est pas rendu compte que pendant ce temps les institutions, nous on s'en défaisait complètement et à la droite qui avait été exclue pendant très longtemps, les fondamentalistes religieux et autres se sont saisis, se sont emparés de ces institutions. Et à partir de là, les ont démolis autant que possible. Et c'est ça qui arrive avec Trump aujourd'hui.
Je le disais, Fred Turner, vous êtes l'un des observateurs critiques les plus précieux de ce mouvement qui a commencé maintenant il y a fort longtemps, dans les années 60, mais on peut remonter aux années 30. En tous les cas, pour la situation contemporaine, j'aimerais savoir ce que vous pensez de la critique aujourd'hui aux États-Unis. Est-ce que, à côté de vous, il y a d'autres penseurs qui essayent de décrire tout simplement ce que nous avons sous les yeux et qui change tellement vite que c'est vertigineux, que c'est difficile de faire ce travail simplement de description avant même de proposer des analyses. Est-ce que cela concerne une toute petite partie du monde de la recherche? Ou est-ce que vous vous sentez de plus en plus isolé? Ou est-ce qu'au contraire, un certain nombre de gens ont pris conscience de la gravité de tous ces changements et se mettent au travail?
Non, je pense que de plus en plus de gens sont effectivement engagés. Je pense à beaucoup de gens, Ezra Klein, des journalistes, des universitaires comme Daniel Criss à l'université de Californie du Nord, Rebecca Lewis à MIT. On essaye tous et toutes de faire de notre mieux. Et dans le même temps, j'ai aussi ressenti un climat de peur que je n'avais jamais ressenti aux États-Unis. Même à Stanford, il y a une sorte de terreur. Moi, je ne te demande pas ce que tu penses. Si toi, tu ne me demandes pas ce que je pense, les gens essayent de longer un peu les murs, sans quoi ils ont peur de se faire attaquer. Et ça, c'est terrible, et on le voit même chez les critiques les plus visibles qui quittent les États-Unis pour aller au Canada, en France. Moi, je ne bouge pas. Moi, je pense que notre boulot, c'est d'être fier, de parler fort et fièrement. Moi, je soutiens la démocratie, je ne veux pas d'un roi, je ne veux pas d'un régime autoritaire. Il est important de rester optimiste. Les Brésiliens avaient Bolsonaro, un régime autoritariste, et ils s'en sont défaits. D'autres pays aussi avaient des régimes autoritaires. C'est possible de s'en défaire. C'est possible de renverser ces régimes. C'est notre rôle en tant qu'intellectuels, professeurs, auteurs, de tout faire pour décrire le problème à mesure qu'il évolue et donner les outils pour que les gens puissent agir.
Agir, réagir, mais le faire dans quel type de relation avec tous ces outils technologiques précisément, toutes ces machines? Comment on peut faire avec ça? Dans quelle mesure on peut les utiliser, en avoir des usages plus critiques? Déjà se tenir au courant de la manière dont elles fonctionnent, mais à part ça, éventuellement s'en servir pour les retourner contre elles-mêmes?
La première chose, quand on utilise la technologie pour soutenir nos propres vies, c'est d'arrêter d'en parler comme une seule et même chose. L'IA n'est ni intelligente ni artificielle. Les grands modèles de langage qui sont à la base de l'IA sont très utiles pour certains outils, pour la pharmaceutique, pour la médecine, pour certains types de résolution de problèmes technologiques. Si on arrive à utiliser les technologies de manière qui est conçue par nos besoins, par l'humain, sur des situations très spécifiques, alors on en aura tiré les bénéfices. Mais les entreprises ont un véritable intérêt à nous convaincre que l'IA et les autres technologies sont comme les réseaux des années 90, c'est-à-dire que tout le monde doit en avoir, tout le monde doit les utiliser, et ça doit être au cœur de notre quotidien. Et c'est bien ça, la vraie lutte. Donc moi, je dirais utiliser avec précaution, avec réflexion, avec intelligence, mais lutter et éviter le discours que l'on entend.
On continue avec vous, Fred Turner, de réfléchir à cette situation américaine, bien évidemment, mais qui nous concerne tous, puisque ces technologies sont mondiales, ces entreprises sont mondiales. On continue toujours dans une traduction de Zain Mokayesh, que je salue au passage. C'est après un extrait de ce même album de Snow Cap, ces deux sœurs de l'Alabama, de Birmingham dans l'Alabama, avec un autre titre, Angel Wings.
Suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Politique des machines, c'est le titre du nouveau livre de Fred Turner, professeur de communication à l'université de Stanford, historien, à qui l'on droit déjà des livres extrêmement importants, traduits chez le même éditeur, CEF, Design d'une démocratie, c'est le nouveau titre de ce livre formidable sur la naissance du multimédia, un livre qui était suivi chronologiquement, même s'il était antérieur, par un livre sur les sources de la contre-culture, les sources contre-culturelles de l'Internet, du web plus exactement. Fred Turner, j'aimerais qu'on continue à parler avec vous et dans une tradition de Zain Mokayesh de cette idéologie texane, de cette idéologie californienne et de la situation qu'on connaît actuellement. Le gros du débat aujourd'hui porte sur l'intelligence artificielle. Et je voudrais avoir votre sentiment sur cette grande bataille, sur ces dimensions politiques et culturelles. Comment vous définiriez les enjeux à propos de l'intelligence artificielle aujourd'hui aux États-Unis en tout cas?
Alors si on écoute des gens comme Sam Altman ou les grands-pères de l'IA aujourd'hui, ce qu'ils vont vous dire, c'est que c'est une technologie virtuelle et ils utilisent une terminologie qui vient des années 90, un truc qui flotte au-dessus de nos têtes, qui est disponible, qui est notre ami, qui nous aide quand on en a besoin et qui est quelque part dans les nuages, dans le cyberespace, qui est invisible. Rien de cela n'est vrai. C'est tout le contraire. L'IA, c'est une nouvelle technologie industrielle qui est beaucoup plus liée au pétrole, au forage et à l'exploitation du pétrole que finalement cette espèce de communication déshumanisée. La première chose à savoir, c'est ça. L'IA, c'est une manière industrielle d'utiliser deux ressources, sociales et naturelles. Les ressources sociales, ce sont nos vies. Nous produisons des données, des registres d'informations, des informations qui peuvent être enregistrées par ces grands modèles linguistiques. Et ensuite, ce sont des patterns, des schémas qui peuvent être utilisés en recettes pour celles et ceux qui les contrôlent, qui peuvent en tirer de l'argent, des choix politiques. L'autre ressource, c'est une ressource véritablement naturelle. Au Texas, la production, c'est énorme, c'est absolument énorme. Il y a ces fermes de serveurs gigantesques, ce qui à l'époque était en fait des ranchs énormes, des milliers d'hectares, et ce sont des fermes de serveurs qu'il faut réchauffer, refroidir, qui nécessitent une quantité extraordinaire d'électricité. Imaginez un ranch énorme d'élevage qui est rempli de ces fermes de serveurs. Et il y en a énormément aux États-Unis, surtout en Texas. Quand elles sont installées, elles utilisent l'eau qui appartient aux citoyens, l'électricité qui appartient à l'État. Et au Texas, par exemple, le New York Times estime que le Texas a connu une augmentation de 5% de ses factures d'électricité depuis que l'IA s'y est installée. Le défi, c'est quoi? C'est de reconnaître que l'IA, c'est une technologie prédatrice, au même titre que le charbon, au même titre que le pétrole. Le pétrole nous a permis de construire, de conduire des voitures. L'IA nous permet aussi de faire un certain nombre de tâches, mais le coût, quel est-il? C'est une pollution, une énorme pollution naturelle et une pollution sociale. Naturelle parce qu'on utilise de l'eau, de l'électricité, on est obligé de créer des centrales nucléaires ou d'autres moyens d'utiliser l'énergie dont on a besoin. Et du côté social, on crée une sorte d'infrastructure qui permet de prendre des décisions politiques extrêmement difficiles à remettre en question. Les citoyens ordinaires ne peuvent pas rentrer dans les systèmes de langage, de grands modèles de langage. Ils ne peuvent pas dire ça c'est vrai, ça c'est faux. Donc finalement, on a très peu de recours, très peu de solutions, c'est très difficile. Je sais que j'ai suivi ici la controverse autour de la femme d'Emmanuel Macron. C'est très difficile d'arrêter les attaques contre son épouse. Imaginez si tout cela se passait dans une grande base de données, invisible, dans une ferme de serveurs au Texas. Eh bien, c'est impossible pour les citoyens de réagir à cela. Nous, notre pouvoir de prendre de parole le citoyen est en jeu. Et c'est vrai aussi pour le paysage naturel.
Alors ça, c'est la dimension matérielle de l'IA. Elle a des implications aussi intellectuelles, des implications pour la recherche, pour le journalisme. Comment, comme chercheur, comme professeur d'université, vous voyez les choses et vous réagissez aussi peut-être par rapport à certaines paniques morales qu'on voit naître autour de l'intelligence artificielle ?
Yeah, so AI is fascinating.
L'IA, c'est fascinant. C'est fascinant, c'est une panique morale, effectivement, qui ressemble à celle du début des années 60 autour de l'automatisation. Aujourd'hui, on l'a oublié, mais dans les années 50, 60, il y avait une terreur à l'idée que tous les métiers allaient être remplacés par des machines et que plus personne n'allait avoir d'emploi. Des commissions ont été mises en œuvre pour se décider de ce qui allait être fait, des métiers qui allaient être détruits, mais finalement, ça n'est pas ce qui s'est passé. Moi, je m'inquiète pas vraiment de l'idée que l'IA va remplacer les emplois. Ça va évidemment remplacer certains emplois, en modifier d'autres et créer des opportunités. En revanche, ce qui m'inquiète, c'est le crime intellectuel qui utilise ces grands modèles de langage et l'appelle l'IA. Si on utilise ces grands modèles de langage, en fait, ça n'est pas un système de magie, c'est une espèce d'intelligence parallèle. On perd toute notre capacité à critiquer, à s'engager avec, à participer avec celles et ceux qui créent les machines, qui utilisent les machines. Ça devient le magicien d'Oz qui vit derrière son rideau et tout ce que l'on en voit, c'est la projection. Et c'est ça qu'on doit surmonter. Ne pas oublier que ce sont des systèmes, des machineries, sujets à la politique. Ne pas oublier que tout ça, c'est la réalité.
Fred Turner, vous le rappeliez tout à l'heure, vous êtes à Stanford. On sait qu'il y a eu récemment à Stanford des listes de professeurs visés, mais c'est pas qu'à Stanford, c'est partout. On connaît la situation à Columbia, on sait la tension qu'il y a eu entre le président Trump et l'université Harvard. Toutes les grandes universités américaines, les plus petites aussi, se sont trouvées sous le feu des attaques du président Trump lui-même ou des Trumpistes de manière plus générale. C'est une attaque générale contre la science à laquelle on assiste depuis des années maintenant aux États-Unis. Quel est votre diagnostic sur cette situation et comment vous pensez que les scientifiques doivent agir face à de telles attaques ?
Effectivement, on est attaqué. C'est terriblement douloureux de voir ces grandes institutions qui nous ont permis de créer des choses comme Internet être attaquées. Et c'est ce que font les fascistes exactement, c'est-à-dire qu'ils cherchent à créer une alternative parallèle. Hitler l'a fait, Mussolini, et aujourd'hui Donald Trump le fait. Ils veulent attaquer spécifiquement ce qui permet d'avoir le pouvoir intellectuel de dire non, ça c'est la réalité, et ce que vous vous dites n'est pas la réalité. Le journalisme, les universitaires, la science. D'un point de vue concret, c'est très difficile. Le Congrès, par exemple, vient surveiller mes mails. Berkeley a des listes d'universitaires qui ont protesté, qui ont manifesté contre la Palestine.
Oui, je faisais une erreur. Je parlais en fait de Berkeley, effectivement. C'est une autre université californienne. À Stanford, vous trouvez un petit peu mieux de ce point de vue?
We're a little bit safer. I'm not sure why.
Oui, on est un peu plus protégé. Je ne sais pas trop pourquoi. On est assez attaché au monde, aux conservateurs. On a l'institution Hoover qui est sur le campus. On a Peter Thiel. Et donc ça nous protège peut-être un peu, mais on n'est pas pour autant protégé. On est tous sujets aux bourses qui sont complètement disparues. On ne sait pas ce qui va arriver de notre côté humanitaire, scientifique. Moi, de mon point de vue, notre travail, c'est le même que tous les métiers, s'organiser, se syndiquer, travailler ensemble. Ce qui se passe à Stanford et aux États-Unis, c'est que finalement, on réfléchit ensemble à notre moyen de penser. On est vraiment au milieu d'un incendie. Moi, je veux sauver mon arbre, mais mon arbre ne survivra pas si toute la forêt autour brûle. Donc, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est de parler, de s'exprimer de manière agressive et de manière unie. Harvard survivra à Donald Trump. Columbia aurait pu survivre à Trump, mais s'est effondré. Moi, mon université s'est renversée aussi et j'en ai honte. On doit s'unir les uns les autres et faire encore mieux que ce que l'on fait maintenant.
Et quand c'est un Californien qui parle d'incendie, je pense qu'il faut encore davantage prêter l'oreille. Je voudrais qu'on termine, Fred Turner, avec une autre dimension. Quand vous dites « nous », ça comprend les universitaires, mais ça comprend aussi les journalistes. Vous avez été journaliste avant d'être universitaire. Quel regard vous portez aujourd'hui sur le système médiatique américain et sur sa capacité de faire face à ces attaques dont il est également l'objet à côté des attaques sur la science, Fred Turner?
Il est très clair que le journalisme qui enrichit est sous attaque. On ne peut pas en être fier, et dans le même temps, il y a des journalistes plus petits, dans des réseaux plus petits, qui sont plus agressifs, et quelques entreprises un peu plus grandes. Wired Magazine était par exemple le cœur de l'utopie dans les années 90, est devenu l'un des médias analytiques les plus agressifs face au fascisme. Ça, c'est absolument extraordinaire, c'est formidable. Et puis en même temps, CBS et beaucoup des grandes entreprises ont un peu disparu, se sont un peu éteintes. Qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai quand même confiance, je suis optimiste. Je me dis que même comme en Russie, comme au Brésil, il y a des gens qui vont continuer à dire la vérité, à résister, à construire des réseaux alternatifs, des institutions alternatives, résister aux dictateurs et nous ramener à la démocratie. Peut-être que ça prendra beaucoup de temps, mais moi je suis très optimiste et je pense qu'on y arrivera.
Restez optimiste, voilà, c'est le mot d'ordre de Fred Turner. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre nouveau livre, Politique des machines, qui paraît aux éditions CF. On trouvera aussi sur la page de la suite dans les idées les références à vos livres précédents, publiés toujours chez le même fidèle éditeur qui fait un travail formidable pour faire connaître vos recherches, des recherches qui nous permettent de prendre toute la mesure de cet incendie dans lequel nous nous trouvons et dont vous parliez à l'instant. Merci beaucoup à vous, Fred Turner. Merci à Zain Mokayesh pour la traduction.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Rubrique actualité aujourd'hui, à la suite dans les idées avec vous. Bonjour Renaud Epstein.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, professeur à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye, et vous êtes l'un des organisateurs avec vos collègues Marion Carrel, Thomas Kirschbaum, Julien Talpin, je vais peut-être oublier quelqu'un, Marwan Mohamed. Voilà, et vous êtes le co-organisateur d'un grand colloque qui se tient ce jeudi et ce vendredi sur 20 ans après 2005, les révoltes des quartiers populaires. Ça s'appelle « Quand les quartiers protestent ». Qu'est-ce qui vous a conduit à part cet anniversaire? On a beaucoup parlé quand même à l'occasion des 20 ans de la mort de Ziad Ebouna, de ce qui s'est passé en 2005 dans les quartiers. Mais j'imagine que vous anticipiez pas nécessairement une couverture médiatique aussi grande quand vous avez conçu cette journée d'études.
Non, et je suis pas complètement d'accord avec vous quant à la couverture médiatique. Hein. France Culture a couvert, Mediapart a fait un dossier, mais je suis quand même frappé, par exemple, en regardant Le Monde, qui est quand même le quotidien dit de référence, de voir que rien n'a été fait. Hein. Le Monde s'est contenté sur son site d'un petit article des décodeurs, mais rien, pas un élément sur ces 20 ans. Et je trouve ça d'autant plus frappant que ce journal avait couvert très très largement, alors 2005, mais aussi 2023. Donc on n'avait pas fait ça pour...
2023, c'est après Nanterre, hein, la mort de Naël à Nanterre. Oui.
Voilà. Et nous, si on a organisé ce colloque, c'était pas en anticipant une couverture ou une non-couverture journalistique, mais parce que il nous semblait que le temps de la recherche était un peu différent du temps journalistique. Bon, placer ce colloque au moment des 20 ans, c'était aussi pour faire un clin d'œil à l'actualité et susciter l'intérêt. Mais la couverture médiatique des émeutes, elle est à chaud, c'est normal. Les sociologues, les chercheurs en sciences sociales sont très fortement sollicités au moment des émeutes, pendant les émeutes, pour faire du commentaire, mais du commentaire à chaud qui s'appuie sur au mieux des enquêtes lointaines, passées. Or là, on est 2 ans plus tard, il y a eu pas mal de travaux qui ont été réalisés, notamment par des jeunes chercheurs en 2023, à chaud pendant les révoltes qui ont suivi la mort de Naël Merzouk, dans les mois qui ont suivi. Et ce colloque, c'était aussi un peu l'occasion pour nous de faire un peu un état des lieux et de présenter toute une série de travaux réalisés notamment par des jeunes chercheurs, mais pas que, et qui permettent un peu de renouveler le regard et les discours qui ont pu être portés sur ces mouvements de révolte. Il nous semble qu'il y a toute une série d'approches nouvelles, de travaux très intéressants, qui posent des questions nouvelles, qui ne sont pas simplement la répétition de ce qui a pu se dire en 2005, et ce qui a pu se dire à chaud en 2023.
Un des axes de ces deux journées, c'est précisément la comparaison entre 2005 et 2023. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là ? Qu'est-ce qu'il y a eu de semblable ? Qu'est-ce qu'il y a eu de différent ? Dans quelle mesure ce qui s'est passé en 2005 a produit des effets en termes de politique publique qui auraient eu un impact et qui auraient permis de faire en sorte que des révoltes prennent d'autres formes par la suite ?
Alors il y a toute une série évidemment de différences, des continuités. Hein. D'abord dans les mécanismes de déclenchement de l'émeute, hein, c'est toujours suite à une bavure policière. Il y a eu aussi une forme de continuité dans le type de territoire qui ont été émeutiers, hein, avant tout des quartiers populaires, périphériques, même si un des faits notables de 2023, c'est l'extension. Hein, c'est pas simplement les très grands quartiers des métropoles, mais toute une série de petits quartiers HLM, de villes très ségrégées, de petites villes ont aussi basculé. Ce qui me semble le plus marquant dans les différences, c'est d'abord c'est la gestion policière. Que les émeutes de 2005 ont duré 3 semaines, celles de 2023 une semaine, et encore quand on regarde à l'échelle de chaque commune, c'était plutôt 2 ou 3 jours. Et ça tient notamment, pas seulement, il y a d'autres facteurs, mais notamment aux transformations du policing des émeutes, du maintien de l'ordre en temps émeutier. Les policiers en 2005 ont été complètement dépassés. Hein. Ils arrivent à Clichy, ils se plantent, ils n'arrivent pas à trouver le quartier. À l'intérieur du quartier, ils n'ont pas de plan, ils ne connaissent pas. Là, ils n'ont pas un armement qui est adapté. Là, 2023, on a un arsenal policier qui est gigantesque. On a des mécanismes de coordination entre toutes les forces policières. Et parce que la police, c'est combien de divisions ? Il y a plein d'unités différentes au sein de la police. Il y a la gendarmerie, il y a les polices municipales qui ont joué un rôle clé, notamment à travers les centres de supervision. Il y a aussi des changements dans l'armement policier, mais aussi du côté des émeutiers. Hein. L'intervention des mortiers, de ces feux d'artifice, a changé la donne, parce que ça permet aux émeutiers de tenir à distance la police. Hein. La portée de ces feux d'artifice est supérieure à celle des LBD. Et donc, tant qu'il y en avait en stock, le rapport de force a été changé. Mais les stocks sont vite épuisés, et donc les policiers ont pu très rapidement reprendre le contrôle. Dans les autres changements, il y a le fait que le théâtre même des émeutes a changé. Les quartiers, entre 2005 et 2023, la plupart d'entre eux ont été profondément rénovés. Hein, la politique de rénovation urbaine a changé l'urbanisme de ces quartiers. Ce changement a été largement guidé par la doctrine dite de la prévention situationnelle, la prévention de la délinquance par l'aménagement urbain, qui ont permis à la police de reconquérir beaucoup plus rapidement et facilement ces quartiers. Et puis, la dernière différence qui a été pas mal pointée, mais à mon sens de travers par les responsables politiques, y compris le président de la République, c'est le rôle des réseaux sociaux. Les émeutes de 2005 ont été des émeutes télévisées. Hein, il y a une esthétique TF1, comme dit Anastasia Maga, une des intervenantes de ce colloque. Celles de 2023 sont très largement des émeutes snapchatées. Je ne sais pas si le néologisme existe. Et derrière ça, il y a une pluralisation des formes d'exposition et de mise en récit. Et de mise en image des émeutes, ce qui change la donne aussi dans non seulement dans le débat public, mais aussi dans les formes de circulation des répertoires émeutiers. Il y a évidemment toute une série d'autres différences, mais la grande continuité, c'est, je l'ai dit, hein, le rôle de la police qui est le déclencheur, et puis la grande continuité, et ça on a toute une série de travaux qui sont présentés dans ce colloque qui le montre, c'est à quel point ces émeutes s'ancrent dans un quotidien fait de vexation, de discrimination, de violence policière, qui font partie de l'expérience quotidienne, ou du spectacle quotidien en tout cas, que vivent les jeunes, notamment les jeunes hommes racisés dans les quartiers populaires. Et on ne peut pas comprendre l'émeute indépendamment et cet événement spectaculaire qu'est l'émeute, indépendamment de ce quotidien fait de toutes ces discriminations et de toutes ces micro-agressions policières. Et ça, c'était déjà le cas en 2005, ça l'est toujours en 2023, Et en plus, entre 2005 et 2023, les générations ont changé, mais la mémoire, elle se perpétue, elle se diffuse. Et je pense que c'est aussi un des analyses assez marquantes des différentes communications qui sont proposées dans ce colloque, c'est de voir à quel point ces émeutes s'inscrivent dans une histoire longue désormais, une histoire qui est racontée, une mémoire qui se construit et qui se transmet de génération en génération.
Oui, il y a un temps en particulier dans ces journées qui est consacré à la question des socialisations émeutières, c'est-à-dire que aujourd'hui, ça c'est l'avantage des sociologues d'être dans le temps long, vous pouvez regarder la façon dont ces événements ont été structurants pour des gens, et y compris à des échelles de temps relativement longues.
Oui, on a notamment une très belle communication de Michael Chelal, qui a sorti très récemment un très beau livre d'ailleurs, indexé sur une ethnographie très fine d'un quartier de Rosny-sous-Bois. Et il montre dans sa communication le rôle des grands dans le quartier. Alors les grands pourront être des grands de 25-30 ans vis-à-vis des petits, comment la mémoire de 2005 est activée, comment aussi les grands jouent un rôle régulateur, y compris ceux qui avaient pu être émeutiers en 2005 et qui comprennent les raisons de la colère des petits de 2023, mais qui, voyant la violence de la répression policière, se mettent à avoir un moment assez rapide un rôle justement de régulation consistant à dire aux petits « bon, là c'est bon, là, vous avez marqué le coup, mais maintenant c'est trop dangereux, il faut s'arrêter ». On a aussi une recherche très, très intéressante d'Anaïque Puren qui, elle, s'intéresse aux petites émeutes, non pas à ces grandes émeutes 2005-2023, mais à celles un peu ritualisées qui ont lieu tous les 14 juillet, des petites confrontations avec la police, et au travers d'une recherche participative qu'elle a fait avec des jeunes à Vaux-en-Velin. Elle montre à quel point ces moments d'émeute, alors que ce soit les grandes émeutes de 2023 ou les petites émeutes récurrentes, tout ça s'ancre dans des formes de sociabilité adolescente, de socialisation propre désormais au quartier populaire, des socialisations dans lesquelles le rapport à la police est évidemment central.
Vous réservez un temps aussi à des perspectives ultramarines avec une communication sur la Réunion, une autre sur la Nouvelle-Calédonie. Ça vous semblait important d'élargir la focale ?
Tout à fait. Alors, le problème, c'est qu'on avait que deux jours, donc on n'a pas pu tout traiter, mais le sujet est évidemment gigantesque. On n'a par exemple pas de communication sur les révoltes hors du cadre français, alors même que on partira 2005, où la France se singularisait en Europe. On a, sur les 20 dernières années, on a énormément de pays voisins qui ont été marqués par des émeutes de même type. Mais ce qui nous semblait effectivement important d'avoir des travaux sur les territoires ultramarins, d'abord parce que on a quand même connu là en Nouvelle-Calédonie l'année dernière des émeutes d'une durée, d'une violence et d'une ampleur absolument considérable, et sur lequel on a eu un regard qui me semble assez biaisé et limité. Il y a eu aussi à la Réunion en 2018 des émeutes. Il y a régulièrement aussi dans ces territoires ultramarins des émeutes, et il me semblait intéressant d'aller voir ça parce que on a beaucoup de communication et beaucoup de travaux de chercheurs qui portent sur les émeutes dans les territoires de l'Hexagone et qui s'inscrivent dans une perspective qui va être postcoloniale ou qui en tout cas interroge ces événements sous un prisme postcolonial. Et il nous semblait dans cette perspective d'autant plus important d'aller voir ces territoires ultramarins qui évidemment ont un rapport à la colonisation qui est à la fois spécifique mais qui nous semblait très éclairant aussi en miroir pour comprendre ce qui pouvait se jouer ici.
Merci beaucoup, Renaud Epstein. Ce colloque se tient aujourd'hui et demain encore. C'est au campus Jourdan. On trouve un lien vers le programme complet de ces deux jours quand les quartiers protestent. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau avec Aurélie Marseille à la réalisation aujourd'hui. Colin Gruel à la technique d'Aliya. Yeah.